Je disais que c'est sûr que même dans la période de flirt, vous adoptez des langages, on va dire, à caractère sexuel. Vous adoptez un langage à caractère sexuel et forcément, ça va développer des idées dans votre esprit. Forcément, ça va vous permettre de visualiser déjà la chose. Dès que l'idée est engrainée dans votre esprit, c'est sûr que vous allez penser à la réaliser. Le jour où tu vas voir ton gars, ta go, c'est sûr que le diable va remettre cette idée-là dans ton esprit et forcément, ça va te tenter. Forcément, tu vas vouloir commettre la chose. Donc, c'est sûr que en islam, non seulement les relations sont interdites, mais le flirt aussi est interdit parce que ça ouvre les portes du mal, de l'impudicité et ça rapproche de la fornication. Parce que c'est dans les mots que la pensée se développe. Si tu échanges des paroles, on va dire obscènes, je vais utiliser le mot, des paroles obscènes avec ton gars, forcément tu vas y penser, forcément ça va te donner envie. Non seulement la chair est faible, mais le diable est fort aussi. Ne pensez pas que, comme Anne-Maëlys l'a dit, ne pensez pas que vous allez pouvoir combattre. Vous ne pouvez pas combattre. Peut-être que vous allez commencer, mais après là, vous allez fléchir. C'est pas possible, en fait.
Vous allez comprendre que c'est mieux de fuir.
C'est mieux de fuir, parce que genre, une fois, tu as résisté, il y a feuille. Deux fois, trois fois, à la troisième fois, là, tu vas tomber. Tu vas mal tomber. Et tu vas finalement être dans une situation où tu vas regretter. Et si même tu as commis le pire, vous êtes allé jusqu'au rapport. Imaginons, non protégé. Tu as un enfant. De nos jours, les avortements sont devenus... C'est comme si tu partais payer du pain à la boulangerie.
Petite opération de la supérette.
C'est ça. Alors que Allah même nous dit dans le Coran, ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Donc, c'est pour vous dire que non seulement vous allez faire le péché de la fornication, vous allez faire le péché de tuer quelqu'un. Bon, vous imaginez qu'avec tout ça, avec tout ça là, où vous serez le jour de la résurrection? Non, je vous laisse faire le calcul. Donc, pour vous dire que les relations, qu'on se le dise, c'est vrai qu'on va se dire que non, mais on a besoin d'être en couple avant de se marier pour pouvoir connaître la personne, parce que sinon, comment je vais savoir, on va dire comment je vais savoir que je l'aime, comment je vais la connaître? Mais c'est sûr que ça va ouvrir la porte à certains péchés qu'il faut éviter grandement, en fait. Donc, pour cela, il y a une solution. Parce que on nous dit de connaître la personne avant de la marier. Il faut la connaître quand même. Tu ne vas pas te marier avec un inconnu. Non, forcément, vous devez vous demander, et moi-même, je me suis demandé, comment connaître la personne si on n'est pas sortis ensemble? Genre, comment passer de l'étape de célibataire à marié? Et ça fonctionne, en fait. Le truc, c'est que je vais vous lire quelque chose. C'est un hadith, donc une parole du prophète Mohammed. Et qui dit, ce sont les imams Ahmad, Abu Daoud et Hakim qui rapportent selon Jabir que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire paix et salut sur lui, a dit, si vous voulez vous marier avec une femme, alors, si vous pouvez, regardez en elle ce qui pourrait vous séduire pour le mariage. Quand on dit de regarder en elle ce qui pourrait vous séduire pour le mariage, c'est-à-dire apprendre à la connaître, déjà lui parler, mais en plus de ça, le physique aussi. Genre, tu peux pas te marier avec quelqu'un que tu as qui tu n'es pas, genre, avec qui tu ne trouves pas une certaine attirance, avec qui, genre, le physique ne t'attrait pas. C'est sûr que ça va pas marcher. Combien tu vas vouloir chercher ailleurs? Surtout qu'en islam, on permet 4 femmes. Tu as pas une femme qui te plaît pas physiquement. La deuxième, tu as pas, non, on veut pas de ça. On a dit projet monogame. Voilà. Donc, il faut apprendre à connaître et c'est permis de regarder la personne que tu convoites, la personne, si tu as vraiment l'intention de la marier, s'est permis de la regarder, de converser avec elle, mais ne pas la regarder dans le sens où celle-là, elle me plaît bien, genre.
Ne la regarde pas comme si tu veux la manger.
C'est ça, regarde-la dans le sens de l'admirer, voir si son physique te convient. Et les conditions pour parler avec la personne, pour que ça reste quand même dans les valeurs morales de l'islam, et pour que vous puissiez quand même apprendre à vous connaître, c'est de garder de la pudeur dans vos propos. Éviter...
C'est un peu de passer par l'amitié, finalement.
C'est ça, en fait. Voilà. Genre, passer par l'amitié, mais tout en sachant que on veut se marier, quoi.
Ouais,
donc, on aborde quand même des sujets que deux amis ne sont pas censés avoir, quoi. Mais tout en gardant la pudeur, parce que faut pas se rapprocher, comme on a dit, de la fornication. Donc, il faut éviter tout propos obscène. C'est pour cela qu'on nous dit dans le Coran, si vous craignez votre Seigneur, ne soyez pas trop complaisant dans votre langage, afin que la convoitise ne se saisisse pas du cœur de celui qui est malade, et tenez un langage décent. C'est une manière de dire que quand vous allez parler à la personne que vous convoitez, sachez être, on va dire, prude dans vos propos. Sachez tenir votre langage dans le sens où vous allez adopter un propos assez mal placé. La personne, on dit, afin que celui qui est malade ne se saisisse pas du cœur. C'est une manière de dire que les personnes qui ne sont pas saines d'esprit, qui ont l'esprit déplacé, dès que tu vas dire cette phrase-là, ça va ouvrir les portes. Ils vont se dire, ah, c'est que c'est possible.
Voilà, c'est qu'on peut faire. C'est-à-dire que tu leur as tendu la perche.
Tu vois, alors que peut-être que pour toi, c'était, je sais pas, genre c'était insignifiant. Alors que c'est fini, en fait. Genre, vous avez ouvert la porte, on ne peut plus la refermer. Le train est déjà lancé, en fait.
Voilà. Donc, okay, là, c'est par terre, on ne peut plus la ramasser.
C'est ça, en fait. Donc, ça, c'est dans la sourate 33, verset 32. Donc, déjà, la pudeur dans le langage. Deuxièmement, et ça, je pense que c'est très important pour ne pas s'approcher de la fornication, ne pas s'isoler. C'est-à-dire ne pas s'isoler avec la personne.
Ah,
parce que si vous êtes, vous deux, dans une pièce, entre quatre murs, les portes sont fermées, bouclées, la fenêtre est bouclée, les fenêtres, les rideaux sont tirés, lumière rouge, on connaît ça. C'est sûr que le diable, parce que même le prophète nous dit, lorsque un homme et une femme sont dans une pièce seule, il y a le shaitan comme troisième personne.
Ah.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a le diable qui est là. Vous êtes vous
il
deux.
Il est là, il attend.
Je t'ai dit, il attend le faux pas, en fait.
Parce le que moment. Que le diable est quelqu'un de très patient. Il n'a pas de problème. Hein. Et... En tous les cas, il va chuter. Donc, il va se caler, il va attendre. Si je suis attendu une petite perche là, il va tout saisir pour te donner. Donc...
C'est ça, en fait. Donc, ça, ne pas s'isoler. C'est-à-dire que quand vous vous voyez, toujours vous voir dans des lieux publics ou vous voir avec d'autres personnes, là, comme ça, ça ne va pas vous tenter. Et puis, je pense que ce sont les deux points vraiment importants. Être prude, genre garder de la prudeur, et de la pudeur, pardon, dans vos propos et ne pas s'isoler. Je pense que on n'a pas besoin d'être vulgaire et on n'a pas besoin de se voir seul avec quelqu'un pour pouvoir la connaître. Si tu as vraiment envie de connaître quelqu'un, même s'il y a 10 000 personnes, tu vas te focus sur la personne en question et vraiment approfondir, en fait. Et je pense qu'avec ça, tu auras les éléments nécessaires pour savoir si tu veux t'allier à cette personne-là ou non. Faire d'elle ton vêtement. Je pense que ça sera le mot d'ordre. Faire de la personne son vêtement.
Le tapement de la vie.
Faire ça, ton Srekeli, en fait. Donc, c'est sur ces points-là que je voulais m'atteler avant de passer sur les relations mixtes. Comme Anne-Maëlie, je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose ou bien...
Si, j'ai envie de rajouter quelque chose quand même, parce que comme tu as abordé les relations sexuelles, je pense que ce serait intéressant que genre on puisse aborder ça en même temps. Mais comme les relations sexuelles, on va dire, c'est la grosse partie du gâteau, on va commencer d'abord par les petites parties. La première petite partie que moi j'ai trouvée intéressante, c'est vraiment votre entourage. Parce qu'il faut savoir que, comme Neissa l'a dit, tu as dit, les actions... Les actions se forment dans les mots, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ok.
C'est ça.
Donc, les actions se forment dans les mots et se forment dans vos pensées. Donc, faut savoir que ce que vous allez penser et les mots que vous allez avoir, les actions que vous allez avoir vont être grandement impactées par ce par quoi vous nourrissez votre corps et votre esprit. C'est-à-dire que si vous, et là je veux faire référence à l'environnement nocif, si vous êtes dans un environnement ou dans un groupe d'amis où ce sont tous des forniqueurs, eux tous ils font la fornication, et puis vous, vous êtes la personne, on va dire, la personne qui ne fait rien, la blanche colombe qui est assise comme ça au milieu, vous êtes l'agneau au milieu des loups.
Il était dit, on va faire ton michoui.
Soit vous allez devenir loup, soit on va vous bouffer. Il n'y a pas. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est pas truc. Donc si vous êtes dans un environnement de forniqueurs, ils sont tous en train de parler de la fornication. Forcément, ceux qui vont vous partager, quand ils vont vous expliquer leur truc, ils vont vous dire ils vont partager leurs pensées, leurs trucs liés à l'impudicité, etc. Ça va nourrir votre esprit, ça va rentrer dans votre tête, ça va rester dans un coin de votre tête. Vous allez vous penser que vous pouvez combattre, vous n'êtes pas chez la fille. Ça va rester dans un coin de votre tête. Et un jour, quand vous allez vous retrouver dans certaines circonstances, ou bien même pas dans certaines circonstances, hein, vous allez vous retrouver à commettre l'impudicité. Parce que malheureusement, maintenant, on sait que les gens peuvent commettre l'impudicité en étant seuls. Donc, vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez commettre l'impudicité. Vous allez faire des péchés en griffe que vous auriez pu éviter si vous avez, on va dire, le bon groupe d'amis, le bon environnement, des personnes qui parlent de choses saines. Si vous êtes dans un environnement avec des gens qui sont tout le temps en train de faire la fornication et qui n'y voient aucun inconvénient, qui n'y voient pas un problème, vous essayez de parler une fois pour les sensibiliser, deuxième fois vous bougez. La deuxième fois, vous bougez, vous fuyez la tentation, vous fuyez l'impudicité. Vous ne laissez pas une opportunité à, on va dire, à l'ennemi de vous confronter face à des choses qui ne sont pas vous. Ça déjà, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, il y a vraiment le côté, il faut que vous cherchiez, comme Nessa a dit, à connaître la personne dans son dedans. C'est-à-dire, il faut que vous cherchiez à connaître la personne, à savoir ce qui est en la personne. Donc, vous devez connaître ce qui fait la personne, sa personnalité, ses qualités, ses défauts. Et c'est là que vous allez savoir ce qui vous plaît réellement. Parce que le physique, c'est bien. Mais le physique, c'est pas... On va dire, c'est pas ça qui va tenir toute la vie. Le physique, ouais. Ça change, ça... Voilà. La façon dont je suis rencontrée...
Ça se dégrade.
Genre, je sais pas moi, 19 ans. C'est pas comme ça qu'elle sera à 50 ans. Genre, elle aura beau faire tout ce qu'elle veut. Non, c'est pas possible. Toi aussi, la façon dont vous êtes rencontrée, je sais pas moi... À 20 ans, c'est pas comme ça que tu seras quand tu auras 60 ans, c'est pas possible. Donc le physique, c'est quelque chose qui est changeant, c'est quelque chose qui change. Donc tu peux pas t'accrocher à ça pour bâtir ta relation. C'est pour ça que l'amitié, c'est vraiment important. Parce qu'on pourrait limite définir le couple comme un degré supérieur d'amitié. Et c'est pour ça qu'on a fait l'épisode sur l'amitié où vraiment... Bref, moi j'estime qu'on a tout dit, on a tout dit dedans.
Franchement.
On a tout dit dedans. C'est vraiment un épisode qui devrait pouvoir vous éclairer. Parce que si vous avez une personne qui est intéressée par vous et vous savez que vous parlez avec la personne, il n'y a pas d'ambiguïté, rien, vous cherchez à connaître la personne, mais vous savez que quelque part votre objectif c'est d'arriver au mariage, il faut que cette personne-là elle remplisse tous les critères de l'amitié, sinon après ça va être compliqué. Et dans cette même logique de fuir la tentation, comme Nissa a dit, vous ne créez pas des situations qui vont vous fatiguer après. Vous ne pouvez pas dire que non, vous allez vous retrouver dans la même pièce entre quatre murs. Genre une fille et puis un gars, vous allez être entre quatre murs. Il n'y a pas de lumière, c'est une petite lumière tamisée là.
Une petite bougie seulement.
Et puis maintenant, vous allez nous expliquer que non, vous avez joué au Uno.
Genre... Bye. Mais ah, c'est impossible. Bye.
Oh. Si vous êtes là, normalement, si vous aimez vraiment la personne, vous n'allez pas vous presser pour ce genre de choses. Et vous savez, la chair est faible. C'est l'esprit qui est ardent. Donc, débrouillez-vous toujours pour que votre esprit soit au contrôle des choses. Parce que si vous avez laissé l'occasion à votre chair de faire ce qu'elle veut, c'est le shaitan qui va se frotter.
Il était dit, se lécher les babines.
Il va se lécher les babines, il va se réjouir de ça. Du coup, pour continuer, avant qu'on aille sur les couples mixtes, comme on a commencé, on va aborder les relations sexuelles. Déjà, on va dire que moi, à mes yeux, peut-être que j'abuse aussi parce que moi, je suis très dramatique comme personne.
Ouais. drama.
Donc, à mes yeux, les relations sexuelles, c'est vraiment le fléau numéro 1. En tout cas, top 3. Parce que pour moi,
l'ennemi à abattre.
Parce que franchement, pour moi, c'est un péché banalisé. C'est un péché, oh c'est un péché normalisé. C'est un péché auquel tout le monde est finalement confronté. On se retrouve dans une configuration où les individus se retrouvent exposés très tôt à tout ce qui est sexualité suggérée. Ce que moi j'appelle la sexualité suggérée, c'est les pubs. Pubs de parfum, je comprends pas. Bref. Donc les pubs, les clips, les chansons, les livres. Les livres, les Wattpad, je suis responsable. Je suis responsable de ce que j'écris, pas de ce que vous lisez. Bref, c'est une sorte de sexualité suggérée qui va commencer à polluer vos pensées. Donc ça déjà, c'est un premier truc. Et ça va faire, comme Nissa a dit, que vous allez avoir des conversations avec un gars, ou bien un gars va avoir une conversation avec une go, où il y aura cette sexualité-là suggérée. Il va envoyer des chansons à la go, en mode, oh, cette chanson me fait trop penser à toi. Et puis maintenant, j'écoute la chanson. J'écoute la chanson. Tu vois que c'est un peu... Bon, c'est un peu bizarre, quoi. Donc ensuite, ça, c'est ce que j'appelle la sexualité suggérée. Et puis ensuite, il y a la pornographie. Dites-vous, la pornographie, là. Bon, bref. Faut savoir que maintenant, est-ce que vous savez que l'âge en moyenne auquel les enfants commencent à regarder la pornographie, c'est 9 ans?
Oh, juré.
Il est assu. C'est-à-dire que l'enfant, il a 9 ans, il commence à regarder la pornographie. Il commence à genre normaliser ça dans son esprit. Et donc, forcément, il va vouloir tester plus vite. Quand il va arriver, quand il va avoir 13 ans, là, c'est fini.
Il a déjà fait.
Il l'a déjà fait. Donc, franchement, moi, en tout cas, quand j'ai su ça, ça m'a choquée. Quand j'ai su ça, ça m'a choquée. J'ai connu une petite fille. J'ai connu une petite fille qui était en 6e. Et genre, il y avait les garçons de sa classe faisaient des way qui étaient à... Enfin, ils faisaient des trucs. Ils faisaient des trucs qui étaient à, littéralement à caractère sexuel. C'est-à-dire, tu vas te retrouver avec un mec qui est au CM2, qui va chercher à, excusez-moi, à se branler sur le sac à dos d'une meuf en disant que oui, je sais pas moi, quand il fait ses penses à elle. Les gars, ça ne va pas. Ça ne va pas. Genre vraiment, dites-vous si on peut se retrouver dans cette configuration-là. C'est hyper grave. Et peut-être que mon analyse est fausse, hein. Mais je pense qu'on devrait quand même réfléchir ensemble. Parce que c'est un problème, c'est un fléau. C'est l'ennemi à abattre.
C'est l'ennemi à abattre.
Parce que c'est-à-dire que on se retrouve dans une configuration où tu as des parents qui se décarcassent pour éduquer leurs enfants avec les valeurs qu'ils prônent en fonction de leur religion. Et puis pendant ce temps, l'enfant s'en va à l'école et puis il va partir à ses camarades, demander genre, je sais pas moi, fais des oui bizarres et tout. Vraiment. Mais... c'est hyper grave. Et le pire, c'est que quand les enfants font des choses comme ça, ils n'ont même pas genre tout le recul que nous on a. C'est comme si ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Et c'est vraiment ça qui est problématique.
C'est normal,
dans l'accès exagéré à la pornographie, à tout ce qui est sexualité suggérée. Et moi, je pense que le fait que, en fait, les rapports sexuels, ce soit un plaisir qui passe vite et qui se procure facilement. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai vu que, bon, les mecs, vous allez m'excuser, mais c'est surtout pour vous que ça se procure facilement. Parce que malheureusement, ou enfin, je sais pas si c'est malheureusement ou pas, mais en tout cas, la fille, pour qu'elle atteigne, du coup, on va dire, son plaisir, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de conditions qui soient réunies. Il faut vraiment que, dans sa tête, elle soit à l'aise, que, on va dire, dans son corps, elle soit bien, que machin. Parce que vous savez que les filles sont très casse-tête. Donc, il y a un certain nombre de choses qui doivent être réunies. Et la fille ne se limite pas forcément au plaisir physique. En tout cas, c'est ce que j'ai fait mes recherches. Alors que, malheureusement, ces hommes ne se limitent qu'à ça. Ces hommes ne se limitent qu'à ça. Et c'est un plaisir qui se procure vite, qui se procure facilement. Et ça va rapidement créer une dépendance. Parce que ta dopamine, en fait, quand tu vas... La dopamine, du coup, c'est l'hormone du plaisir. Donc, ta dopamine va monter aussi vite qu'elle redescend. Donc, tu vas te retrouver dans un système où, en fait... C'est ça. Tu vas être dans un système de manque. C'est comme la drogue. Hein. Tu vas être là et tu vas vouloir, genre, tout le temps. Ou bien dès que j'en ai l'occasion. C'est pour tout ça qu'on vous a dit de fuir. Ne cherchez pas à vous retrouver dans des situations où vous allez pouvoir être confronté à la chose et puis chercher à combattre la chose. C'est pas tous les ennemis on cherche à combattre. C'est pas tous les ennemis on cherche à abattre. Il y a des choses là. Tu dois simplement voir et puis faire ah. Ça c'est le truc devant lequel je dois fuir. Ça c'est le truc devant lequel je dois fuir. Donc et même dis-toi, moi j'ai appris un truc qui m'a choqué, c'est que toutes les personnes qui sont nymphomanes, donc les nymphomanes c'est toutes les personnes qui sont on va dire sexuellement actifs et actifs au sexe. Donc, ils sont des personnes qui sont pas sages, ce sont des forniqueurs. Il faut savoir que...
C'est une maladie, hein.
Oui.
C'est une maladie.
Mais c'est
faut une... pas les gens...
Justement...
Ne prenez pas ça pour mettre ça sur vous, c'est une maladie.
Justement, genre, vraiment, c'est une sérieuse maladie. Les gens qui sont nymphomanes, ils sont atteints de dépression, ils sont atteints d'anxiété, ils sont atteints d'incapacité à atteindre des orgasmes. Tout ça, à cause... Tout ça parce qu'ils ont décidé d'être forniqueurs. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Et je pense que vraiment, il faut se poser les bonnes questions. Si vous faites ça, arrêtez ça. Ne donnez pas à votre chair ce qu'elle veut. Faites ce que Dieu veut que vous fassiez. Et je pense que c'est beaucoup plus... Je pense aussi que c'est beaucoup plus facile pour les hommes que pour les femmes. Au-delà parce que, au-delà du fait qu'eux, ils ne peuvent jamais tomber enceinte. Mais principalement parce qu'il y a moins de pression sociale sur eux quant à leur réputation. Il y a beaucoup moins de pression sociale sur eux. Vous allez vous retrouver dans des familles où quand un gars a genre plusieurs go, ou bien qu'il a plusieurs conquêtes, ou qu'il a plusieurs rapports, c'est genre... On va dire ses tantes, même sa maman, même parfois, va lui dire, mais, ah, mais toi, tu es un vrai garçon. Toi, tu es un vrai garçon. Toi, tu es comme ci, toi, tu es comme ça. Donc, ça fait que le gars va grandir en se disant que, ah.
C'est normal.
Je suis un big boss, en fait. Je suis un big boss. Je vois pas pourquoi je devrais arrêter. Alors qu'en fait, non, c'est pas du tout ça. Et c'est pareil aussi, pour, on va dire, les femmes, elles ont une, moi, en tout cas, je trouve que les femmes ont une réelle pression sur elles. Déjà, parce que, qu'elles se protègent ou pas, il y a un risque d'être enceinte. Ensuite, il y a le côté, si une femme fait avec tout le monde, on va dire que oui, c'est une prostituée, c'est une pute. Si elle fait avec personne, non, c'est une fille, elle est coincée. Quand tu vas vouloir chercher à parler avec un gars et que, comme Nissa l'a dit, le sujet va intervenir dans la relation, vous allez vous retrouver face à des gars qui vont mettre la pression, en fait, sur la fille avec qui ils sortent, en mode oui, mais si on couche pas ensemble, y a rien qui me différencie de tes autres amis garçons. Genre vraiment des trucs. Tu es là, tu écoutes. Et moi, la seule question que je me pose à chaque fois, c'est à quel moment c'est devenu comme ça? Peut-être parce que dans ma tête, on a grandi trop vite et les choses sont passées trop vite et j'ai pas eu le temps de réaliser. Mais je me dis, à quel moment c'est devenu quelque chose d'indispensable? À quel moment on est passé de un go, une,
voilà.
Non.
C'est l'émotion.
Vraiment, c'est l'émotion. Donc, à quel moment on est passé de une go sort avec un gars et ce qui matérialise le fait qu'ils sortent ensemble, c'est s'attraper la main dans la cour de récréation, à si ils couchent pas ensemble, ils peuvent pas être en couple.
Franchement.
Je sais pas. Attrapez-vous les mains. Je sais pas. Et je trouve que, et puis j'ai parlé des filles, mais je pense que quelque part, il y a toujours une pression sur quand tu es dans un couple où il y a une seule personne qui veut. C'est-à-dire, moi, je pense que si tu es dans un couple avec une femme... du moins, ça me fait mal de dire ça. Avec une femme nymphomane, et que toi, tu es un gars qui... Bon, déjà, si tu es un gars qui veut te préserver, je peux pas te trouver dans un couple avec une femme nymphomane. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Mais admettons, tu te retrouves dans un couple avec une femme qui est sexuellement active. Mais tu vas souffrir de ça. Fraisant, tu vois, je suis qui de ça, en fait. Et puis, en plus, par rapport, parce que vous, les garçons, vous avez des égos qui se gonflent vite. Donc, par rapport à ton égo, même, tu vois, parce que, la fille a commencé à faire que oui, c'est un gars, il est pas fort, il est pas ceci, il est pas cela.
Elle va le tromper. Elle va le tromper.
Et puis aussi, on va profiter pour dire que, pitié, la fidélité, soyez fidèle. Normalement, on devrait pas avoir besoin de vous dire, mais vraisemblablement, c'est pas... Vraisemblablement, c'est pas inné. Et moi, je pense, honnêtement, que quand vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas tromper la personne. Il n'y a absolument rien à mes yeux qui justifie l'infidélité. Peut-être qu'on en débattra si vous venez me trouver pour me parler. Mais je pense que je ne serai même pas prête à la conversation.
En tout cas, il n'y a pas de débat.
Il n'y a pas de débat. Il n'y a absolument rien qui justifie l'infidélité. Je ne peux pas aimer quelqu'un et tromper la personne. Genre, c'est pas possible. Imaginez-vous, si Dieu vous dit qu'il vous aime, et puis maintenant, il se débrouille pour que vous tombez chez le diable. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est même pas logique. Quand vous aimez quelqu'un, là, vous protégez la personne, vous prenez soin de la personne, vous faites en sorte que la personne soit heureuse. Donc, vous ne pouvez pas la tromper. Et puis, d'ailleurs, même, je profite aussi, petit message pour mes copines et mes copains aussi. Si vous êtes dans un couple et que le gars ou la go vous trompe, c'est pas que vous allez être marié qu'elle va pas vous tromper. Parce que le mariage ne fait pas ressortir les meilleurs côtés des gens. Mais ça,
c'est vrai.
On va y revenir. Pour l'instant, on reste focus sur les relations sexuelles.
En tout cas.
Et du coup, les relations sexuelles, vraiment, c'est un fléau. Ça, vraiment, vous... En tout cas, vous ne pouvez pas dire que... Je n'ai pas dit que c'est un fléau. Parce que si, j'ai dit, j'ai répété.
C'est vraiment un fléau.
Donc, dans 1 Corinthiens 6, 18, fuyez l'impudicité. On dit quelques autres péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc déjà, il y a la notion de fuite, on a expliqué, courez, prenez vos jambes à votre cou. Et puis ensuite, il y a le côté, tu pêches contre ton propre corps. On a dit, 3 épisodes auparavant, que ton corps, c'était le temple du Saint-Esprit. On a dit que ton corps, c'est la maison de Dieu. Donc, c'est-à-dire que, non content d'en avoir pas fui une impudicité, tu as commis une impudicité, tu es en train de charger les péchés, en fait, à grande échelle sur ton dos. Et puis, en plus, tu viens et puis tu souilles la maison du Saint-Esprit. Tu souilles la maison de ton Créateur. Je suis désolée, mais c'est too much, en fait. C'est trop.
En tout cas, c'est trop.
C'est trop. Et du coup, il faut savoir que les relations sexuelles sont censées, et ça, je pense qu'on s'accorde tous dessus, uniquement se dérouler dans le cadre du mariage. Il faut savoir que dans les religions, quand on vous dit que quelque chose est permis, on sait pourquoi on permet ça. Et de la même façon qu'on vous dit que quelque chose est proscrit, on sait pourquoi c'est forbid, on sait pourquoi c'est interdit. Ils savent pourquoi ils ont fait ça. Ils n'ont pas fait ça juste pour vous embêter parce qu'ils ne voulaient pas que vous soyez heureux. Non, ils savent pourquoi ils ont décidé de mettre ça uniquement dans le cadre du mariage. Il faut savoir que dans le christianisme, les relations sexuelles ont pour but la procréation et le plaisir des époux. Les époux, c'est les gens qui sont mariés. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que finalement une chose aussi accessible, parce que malheureusement, il faut le dire, le sexe, c'est hyper accessible. Donc, pourquoi quelque chose d'aussi accessible devrait uniquement être entre 2 personnes mariées? Déjà, il faut savoir que dans la Bible, parce que moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant à présenter ici, à chaque fois que 2 personnes ont eu un rapport sexuel, on dit qu'ils se sont connus. Par exemple, on dit dans Genèse 4, verset 1, « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. » Le connaître dans la phrase ici, ça veut littéralement dire qu'ils ont eu des rapports sexuels. C'est comme si on dit « Adam a eu des rapports sexuels avec Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. » Et dans la Bible, à chaque fois que 2 personnes ont des rapports sexuels ensemble, on dit qu'ils se sont connus. Et encore une fois, moi je trouve que utiliser le verbe connaître là, c'est un verbe qui est vraiment fort et c'est quelque chose de vraiment fort. Et je me suis dit au départ, non, c'est avec les traductions parce que bon, je pense que vous savez que les Bibles, comme je pense, le Coran c'est en arabe, non?
Ouais.
Ok. Donc.
Mais genre il y a les traductions en français, mais c'est en arabe quoi. Ok. J'ai appris en arabe.
Ok. Du coup là, je vais vraiment parler pour la Bible. La Bible a été traduite au fil des années. Elle a été traduite, retraduite, retraduite, jusqu'à arriver dans une version en français courant, qui est un français très, très, très simplifié. Et du coup, ça fait que souvent, il y a des mots qui perdent leur essence. On va remplacer le mot de base par un mot simple, parce que genre, on veut faciliter l'accès à tout le monde, etc. Donc, je me suis dit au début, ah, peut-être que genre, ils ont utilisé le verbe connaître, parce que bon, ils vont pas dire explicitement dans la Bible, ah, ils ont eu des rapports sexuels, et puis ensuite, ils vont pas aussi... Ils veulent utiliser genre un verbe simple pour dire ça. Mais en fait, j'ai réalisé que étymologiquement, dans la version grecque ou dans la version hébraïque d'origine de la Bible, c'était le verbe connaître qui avait été utilisé. Bon, moi personnellement, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que c'est comme si ils ne se connaissaient pas avant. Alors qu'au vu de tout ce qu'on vient de dire par rapport à tout ce qui était relation amoureuse, ils se connaissaient forcément avant. Ils se connaissaient forcément avant. Et je pense que ce qui renforce, en tout cas à mes yeux, cette notion de connaissance, c'est que je pense qu'ils se connaissent à partir de ce moment-là dans toutes les dimensions de leur être. Donc ça veut dire corps, âme et esprit. Et qu'il y a des connexions qui s'établissent parce que finalement, le rapport sexuel, on est obligé de le dire, c'est aussi la liaison de 2 entités spirituelles avec tous les backgrounds que chacune des entités spirituelles porte. Que vous en ayez conscience ou non, que ça vous plaise ou pas. C'est un lien intangible qui se crée entre 2 personnes et je pense que ça les lie entre elles, en fait, à leurs antécédents. C'est pour ça que... Je pense que c'est pour ça, en fait, ils utilisent le verbe connaître. Parce que tu peux connaître une personne, tu peux connaître l'âme d'une personne parce que, genre, tu parles tous les jours avec elle et que tu es attaché à la personne. Tu peux connaître le corps d'une personne parce que, bon, tu vois son corps tous les jours. Mais pour connaître le corps, l'âme et l'esprit d'une personne en même temps, je pense que c'est le rapport sexuel qui fait ça. Et que c'est pour ça qu'ils utilisent la notion de connaissance qui est quand même une notion forte. Et le truc, c'est que, comme je l'ai dit, quand vos entités spirituelles se rencontrent, quand vos esprits se rencontrent, elles se rencontrent aussi avec leur background. Elles vont se rencontrer avec, bon, j'ai pas envie de dire, avec le background de votre famille et de sa famille. C'est des trucs qui peuvent être hyper compliqués et ça va créer des liens, genre vous avez même pas conscience en fait de l'étendue des liens sacrée. Et l'image simple que j'ai pour dire que vous allez vous retrouver lié aux antécédents de la personne avec qui vous faites des rapports sexuels, c'est l'image des IST. En vrai, c'est même pas une image, parce que c'est un cas concret. On va admettre que, je sais pas, Paul et Géraldine ont eu un rapport sexuel. Non, oui, Paul et Géraldine ont eu un rapport sexuel. Paul avait une IST, donc une infection sexuellement transmissible. Et Géraldine va choper du coup cette IST. Si Géraldine se lève et puis qu'elle s'en va faire un rapport sexuel avec Pierre, Pierre aura l'IST de Paul ou pas?
Il aura forcément.
Il aura forcément. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il va avoir l'IST d'un gars qu'il n'a jamais vu?
Question.
Question. Donc en fait, c'est ça. Genre, quelque part, vous allez vous retrouver. Là, c'est un exemple, on va dire physique, biologique, et des infections sexuellement transmissibles et tout. Mais je pense que spirituellement, c'est la même chose qui se passe. C'est
RTD,
le
la
truc,
même
c'est la
chose.
même chose qui se passe. Le fait que Géraldine soit le transmetteur des IST de Paul pour Pierre, là, c'est ça qui va faire que Pierre et puis Paul vont se retrouver reliés d'une certaine façon, alors qu'ils se sont jamais vus, ils se connaissent pas. Le seul point commun, c'est Géraldine. Et c'est pour ça qu'on vous dit que parfois, quand vous avez des rapports sexuels avec certaines personnes, là, vous chopez des infections spirituelles. Donc, franchement, famille, cherchez à prier. Ne rentrez pas dans ce genre de choses. Fuyez l'impudicité. Vraiment, fuyez ça. Quand vous voyez courir, vous pourrez pas dire qu'on vous a pas dit. Parce que
En tout cas.
ça doit faire une dizaine de minutes. On fait que répéter que vous devez
En tout
fuir.
cas.
Donc, après, je pense que ça pose aussi certaines questions. Parce que ce que je vous dis, que vous le voulez ou non, c'est la vérité. C'est la vérité.
Mais de la vérité en plus.
C'est la vérité. Mais après, faut voir que. Et puis en plus, j'ai vu que plusieurs personnes affirment que c'est plus difficile de se séparer d'une personne avec qui on a
Des
déjà eu des
rapports.
rapports. Que c'est plus facile de se séparer d'une personne avec qui on n'a jamais rien fait que d'une personne avec qui on a déjà eu des rapports. Mais je pense que. Et moi, j'admets que c'est compréhensible. Ça laisse quand même plusieurs questions. Parce que si la Bible dit que c'est maintenant qu'ils se connaissent, s'il y a des liens spirituels qui se créent à ce moment-là, pourquoi personne pourquoi non, pourquoi certaines personnes le font et c'est comme s'il ne s'est rien passé? Genre, pourquoi certaines personnes ne sentent aucune différence avant et après? Parce que je pense que s'il y a autant de personnes qui le font tranquillement sans en sentir les conséquences, tiens, moi je trouve que ça rend la fête doublement mystique en fait, parce que ça veut dire qu'il y a un truc qui se crée à ton insu. Il y a un truc qui se crée à ton insu, et puis tu sais pas, tu es là, peut-être tu es dans un faux truc, peut-être tu es dans un canari même, tu es là, peut-être tu es dans une papaye au village là-bas, tu sais pas. Donc, tout ça pour dire que, en gros, fuyez. Et je pense que c'est vraiment ce que j'avais à dire sur la sexualité. Quoique, ah non, j'ai encore deux autres points à dire sur la sexualité.
Sujet-là, on peut jamais finir.
Sur la sexualité, parce que vraiment, je pense que je vais parler et ça va encore ouvrir la conversation. Mais bon, comme d'habitude, on essaie vraiment de dire ce qu'on pense être le plus important et il y aura forcément probablement des points qu'on aura sautés ou dont on n'aura pas parlé. Faut savoir que les relations sexuelles, comme ça crée des liens spirituels, c'est un moyen de voler votre étoile. En général, on est là, on dit les gens des étoiles, les gens des étoiles, on prend ça pour s'amuser ou bien on prend ça genre. On le dit, mais sans forcément en saisir la profondeur. Mais il faut savoir que nous tous, ici, on a des étoiles. Et il y a des gens qui ont des destinées plus grandes que d'autres et des étoiles qui brillent, on va dire, plus. Il faut savoir que quand vous livrez votre corps, vous vous livrez toute nue ou tout nu à quelqu'un sans forcément savoir dans quoi vous vous mettez, surtout quand vous êtes hors du mariage, parce que déjà les relations sexuelles, on l'a dit, c'est censé être dans le cadre du mariage, vous exposez votre étoile à être shippée sans aucun effort. Genre vraiment, faut le savoir. Parfois, c'est comme si vous vous avancez, et puis c'est comme si, genre, vous tenez votre étoile entre les mains, et puis vous êtes en train de dire, tiens, tiens ma
Tiens,
chérie,
cadeau.
cadeau papa,
C'est ça.
prends mon étoile. Et faut savoir que ce que je trouve intéressant, c'est que dans la Bible, quand Dieu a une grande destinée pour toi, il va mettre des individus sur ta route pour t'aider à être sur le chemin. Et cette destinée, sur le chemin de cette destinée. C'est par exemple l'exemple. C'est par exemple l'exemple. Bref,
Mon cher, ils
mon
sont pour vous.
cher, c'est le cas par exemple de Samuel avec David. Samuel est un homme de Dieu qui va être mis sur la route de David pour que Dieu puisse commencer à agir dans la vie de David. C'est pas que Dieu pouvait pas directement agir dans la vie de David, mais c'est que parfois Dieu juge intéressant de placer des hommes comme nous, avec qui on peut directement échanger sur notre route, quand c'est son plan pour nous. Donc c'est comme ce qu'on disait au début, les relations amoureuses que vous avez peuvent vous bénir ou vous détruire. Parce que de la même façon dont Dieu va vous envoyer des hommes, enfin là je parle en tant que femme, mais en vrai ça marche pour les deux cas, de la même façon dont Dieu va vous envoyer des hommes ou dont Dieu va vous envoyer... Non, on va bien parler. De la même façon dont Dieu va vous envoyer un homme et dont Dieu va vous envoyer une femme. Afin que vous puissiez avancer et tout. C'est comme ça que Satan aussi va envoyer des hommes et des femmes. Il va envoyer des hommes et des femmes parce que il veut, s'il a l'occasion de vous détruire dans le mariage, là, il va prendre cette occasion. Et en fait, le truc, c'est que il va vous envoyer en général des personnes, quand il est loup déguisé en agneau, c'est les envoyés de Satan. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont vous sembler être parfaites, qui vont vous sembler ne pas avoir de problème. Et le diable vous envoie des gens comme ça. Il y a des gens qui sont, on va dire, des personnes avec qui vous pouvez pas être, et c'est évident. Donc, par exemple, on a vu la femme de Potiphar avec Joseph. La femme de Potiphar avec Joseph, moi, pour moi, en tout cas, c'était une envoyée de Satan. Donc, elle voulait venir mettre Joseph dans les faux trucs, là, bref. Et d'ailleurs, même ce qui est intéressant dans le livre de Joseph, c'est que on dit que Joseph ne voulait même pas être en la présence de la femme de Potiphar. C'est-à-dire, il a fui. Il a décidé de fuir. Il n'a pas seulement dit, ah non, je vais pas me mettre avec elle parce que c'est la femme de mon boss, etc., etc. Il s'est débrouillé pour ne même pas être dans la même pièce qu'elle. Il a pris la fuite. Ensuite, on a Dalila avec Samson. Je pense que tu connais l'histoire de Dalila et puis Samson?
Non.
Ok, petite histoire. Petite histoire. Faut savoir que Samson, c'est un homme de Dieu que Dieu a doté d'une force vraiment incroyable. Et en fait, la racine de sa force était dans ses cheveux. Il avait des cheveux genre vraiment très longs. Et c'était de ses cheveux que, on va dire, toute sa puissance venait. Et Samson, comme c'était un homme de Dieu, je crois il était d'Israël. Et les ennemis d'Israël, ce sont les Philistins. Donc, les Philistins ont dit, bon, nous on est fatigués que Samson soit trop fort, il gagne seulement, etc., etc. Nous, aujourd'hui, on va découvrir c'est quoi qu'il fait et puis il est fort comme ça. Et il s'avère que Samson, c'était en fait un gars, on va dire un jeune célibataire. On a envoyé Dalila sur son chemin. Dalila, c'était une go des Philistins. On va dire c'était un peu une espionne. C'était une go qui devait venir draguer Samson. Et puis, en fait, lui permettre de... Enfin, elle allait découvrir, en fait, c'est quoi qui faisait la force de Samson, en fait. C'est ça, elle devait percer son mystère. C'était ça, son but. Samson l'a vu. Samson... Il a quand même excusé, zéro discernement. Le gars l'a vu. Elle est venue, elle a fait genre, ils ont commencé à passer du temps ensemble. Les soirs, elle est là, elle tresse un peu, machin. Et puis elle fait, oh mon chéri, c'est quoi le secret de ta force, machin. Et puis le gars, il a, première fois, il a dit, oh genre, je peux pas te dire et tout, et tout, et tout. Elle s'est dit, bon, ok. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire genre, elle va faire comme si, en mode, les Philistins arrivent, le gars va... Genre, je cherchais à montrer sa force. Et puis, elle m'a demandé ce qui se passe à ce moment-là. Elle a fait ça genre deux fois. Samson, toi, deux fois, tu t'apprêtes à dire à la go le secret de ta force. Deux fois, on vient t'attaquer. Deux fois, tu dois te réveiller. Et puis, toujours, c'est la go qui est là. Toujours, c'est la go qui fait. À aucun moment, il s'est dit, celle-là, elle est bizarre. Hein. Quand t'étais pas là, ça m'arrivait pas. Ou bien, non, il s'est absolument rien dit. En fait, il s'est laissé séduire par la fille. Et finalement, il a cédé. Il a dit à la go le secret de sa force. La go, elle a fini sa mission, elle est partie rapporter. C'est comme ça qu'on a pris les Samson, enlevé ses cheveux, n'a plus de... C'est comme ça qu'on a fait, c'est fini. Et le truc, c'est qu'après, Dieu était un peu en mode... Enfin, je me rappelle pas exactement de l'histoire, donc je veux pas raconter n'importe quoi. Mais l'idée, c'était vraiment en mode... Moi, Dieu, je t'ai dit de ne pas dire c'est quoi le secret de ta force. Tu t'en vas dire pourquoi.
Ouais.
Tu t'en vas dire... Pourquoi? Tout ça parce qu'une go te séduit. C'est ça, on dit, vous rencontrez des personnes là, elles vont vous bénir ou bien vous vous détruire. Ça me sent comme ça. À cause de femmes, on a enlevé ses cheveux.
Il était dit.
On a enlevé ses cheveux. Voilà, ça maintenant, il s'est retrouvé dans un faux truc. Bref. Donc voilà. Il y a Samson et puis Dalila, et qui est un bon exemple. En tout cas, bref, le diable a... il n'a aucune originalité. Il va venir vous envoyer des gens pour vous gâter, pour vous détruire. Mais comme il n'a aucune originalité, si vous êtes attentif, vous allez voir que tchè, celui-là ou bien celle-là, son affaire n'est pas claire. Et c'est pour ça que vraiment, moi, je vous invite à prier pour avoir le discernement. Parce que des fois, il y a des loups déguisés en agneaux. C'est-à-dire, le déguisement est mal mis. Quand tu le vois, tu vois que c'est un loup qui est déguisé en agneau. Mais tu vas pas réussir à reconnaître. Alors que le truc est évident. Et ça, je pense que parfois, c'est juste un manque de discernement. C'est un manque d'analyse, en fait. Tu es là, tu es trop... J'ai pas envie de dire que tu es trop dans les sentiments. Du coup, je prends pas le temps d'analyser. Mais en général, c'est ça. Et du coup, moi, je vous invite à prier pour avoir le discernement. Parce que vraiment, ça varie. Nous tous, on est fatigués. Dans tous les cas, je pense qu'on va essayer de clôturer un peu cette histoire sur le sexe là, parce que ça commence à faire mal à la tête tout ça. Donc,
ouais.
Je pense franchement que dans tous les cas, l'absence de sexe dans une relation, elle permet de développer une vraie connexion émotionnelle avec la personne. C'est-à-dire que vous allez apprendre à vous connaître à un niveau qui est beaucoup plus profond, et vous allez aussi bâtir une confiance hyper solide, et pas une confiance uniquement du coup basée sur des émotions, sur de la passion, sur du plaisir court terme, parce que faut le dire, les rapports sexuels c'est du plaisir court terme. Et vous aurez aussi une meilleure compréhension de l'autre, parce que justement il n'y a pas forcément ce côté sexe, ce côté plaisir qui va venir vous polluer l'esprit. Et je pense que vous aurez des discussions beaucoup plus profondes, beaucoup plus significatives, et c'est tout ça qui va construire un couple en fait. C'est ce qui est en vous, ce qui vous fait au-delà de votre corps, qui va vous permettre de construire votre couple. Et parfois, je pense que tout c'est aussi un point qui est dommage et que je tenais à souligner, c'est que parfois les jeunes, ils sont dans l'ego sans forcément être dans la conscience réelle de qui ils sont. C'est-à-dire, je pense que il faut avoir une assez basse opinion de soi-même pour se mettre nu devant tout le monde. Je dis pas que les gens qui sont sexuellement actifs ont une basse opinion d'eux-mêmes, et je ne blâme personne, parce que moi-même je peux reconnaître, même si moi, comme j'ai dit et comme je le prône depuis tout à l'heure, me fait que fuis, moi je prends la fuite. Moi, honnêtement, j'ai décidé de prendre mes jambes à mon cou et de ne pas mener ce combat-là, parce que comme la Bible vous a pas demandé de combattre, la Bible vous a dit fuyez. Donc je fuis, et c'est parce que justement je fuis et que j'écoute, je regarde, j'observe, que je me rends compte que effectivement quand tu te retrouves dans certaines situations, c'est dur de fuir après, c'est dur de confronter ça et c'est dur d'arrêter. Mais c'est pas parce que c'est dur que c'est impossible. Et je pense que si vous avez suffisamment d'amour propre et que vous avez conscience de la valeur que vous avez en tant qu'être de Dieu, ça va être plus facile pour vous de vous préserver et de comprendre que vous pouvez pas vous montrer nu à n'importe qui et faire n'importe quoi. Mmh.